Kherson bombardé. Donc ce soir, c'est l'information principale sur le front ukrainien. Après avoir perdu la ville, les Russes ciblent, les Russes visent des immeubles civils dans le centre-ville de Kherson. Il y a ce soir 4 morts. Je vous lis ce soir les mots de l'administrateur militaire de la région de Kherson, administrateur ukrainien. Les envahisseurs russes ont ouvert le feu sur un quartier d'habitation à l'aide de lance-roquettes multiples. Un grand immeuble a pris feu, c'est ce qu'il dit sur Telegram. Question, quel est aujourd'hui le but de guerre des Russes? Pourquoi ces bombardements-là? Question que nous avons posée au vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Écoutez-le, on en parle juste après.
Dans ce conflit, ce qui est important, c'est l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine. C'est les données des Sputnik américains à l'armée ukrainienne. Ça, c'est important. Et ça, c'est une aide pour laquelle vous allez payer le prix. Je vous explique comment vous allez payer ce prix-là. Ça serait cher pour la classe moyenne européenne, pour l'Union européenne qui va se mettre dans une crise économique, pour les politiciens qui sont aujourd'hui qui votent aujourd'hui les sanctions contre la Russie. Le Parlement européen dit que nous sommes en état terroriste, etc. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. N'oubliez pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et ça a été 2 fois qu'on a eu une guerre avec l'Europe. La première fois, on l'a terminée à Paris et la deuxième fois au Berlin. Donc, quand je dis Kiev, c'est notre objectif, c'est encore bien modeste.
Kiev, c'est notre objectif, c'est bien modeste, les poubelles de l'histoire pour les leaders européens. Piotr Tolstoï, qui hier nous disait, les Européens n'auront plus les moyens de prendre plus qu'une seule douche par semaine, Elsa Vidal. Mm-hmm. C'est l'objectif. Il veut mettre, et on va en parler, l'Ukraine à genoux, ça on l'a bien compris, il veut mettre aussi l'Europe à genoux.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même une incompréhension profonde de ce que représentent les sociétés démocratiques et des ressorts sur lesquels elles fonctionnent. C'est pas du tout surprenant dans la mesure où aucun des interlocuteurs auxquels nous avons affaire n'a l'expérience de première main de grandir et d'acquérir une culture démocratique. Certes, nous pouvons être pour le moment touchés dans notre quotidien. Certes, il y a un risque de division. Je pense aussi que les dirigeants russes ont certainement sous-estimé la capacité au sacrifice qu'ont les démocraties elles aussi, simplement sur des ressorts différents des leurs. Et bien sûr, ils ont su utiliser contre nous ceux qui pouvaient voir un affaiblissement du pouvoir politique dans le processus démocratique en Europe même. Ils ont nourri ces mouvements, mais je pense qu'ils ont aussi commencé à croire dans cette rhétorique. Et peut-être que le fait de prendre une seule douche par semaine, si tel devait être le cas, ne serait pas un grand problème pour nos concitoyens. De la même manière que on a entendu et vu des vidéos nous disant « attention, l'hiver arrive ». Certes, bon, pour l'Ukraine, c'est important et ça pose une véritable question de survie.
Question de survie, oui.
De survie. À Paris, pour le moment, un hiver à 0 degré, ça peut être très problématique pour les populations les plus fragiles. J'ose espérer que les pouvoirs publics sauront faire face.
Il appuie tout de même là où ça fait mal.
Bien
c'est
sûr.
C'est pour ça qu'il le dit. Mmh. Effectivement, on a senti, à mesure qu'on voyait les impacts économiques en Europe, on a senti tout de même un fléchissement.
Évidemment.
Aux États-Unis également, même si on est plus loin du côté des États-Unis, il y a un fléchissement tout de même dans les opinions, en plus à mesure que le temps passe. Donc c'est vrai qu'il appuie à un endroit où il sait que c'est la fragilité éventuellement des opinions occidentales, mais en même temps, ce qu'il oublie évidemment et qu'il ne dit pas, c'est que du côté russe aussi, alors
exactement.
Il a beau vouloir nier la réalité, de côté russe, la Russie entre en récession.
Oui,
la Russie, même si on a tenté de camoufler les impacts économiques en Russie pendant plusieurs mois, ça devient très difficile également en Russie. Donc c'est difficile en Europe, mais pour la Russie, ça le sera encore
plus. Mais ça va plus loin, parce que là, il y a cet aspect-là de première lecture, c'est-à-dire l'impact économique. Vous allez souffrir, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous allez souffrir. Mais il y a aussi toute la vision géopolitique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en réalité, il explique que la Russie est la puissance la plus importante en Europe et que nous allons payer. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on retrouve le discours aussi de la supériorité russe et le grand dessein de Vladimir Poutine. Et on voit à quel point, c'était frappant hier, je trouve, dans l'interview de cet homme-là, où on voyait vraiment la vision poutinienne et russe qu'on a du mal, nous, à comprendre et à interpréter. Mais en fait, eux, ils ont une espèce de certitude et de détermination dans le récit qu'ils font, que la Russie est extrêmement puissante et qu'elle va, d'une certaine façon, nous mettre à genoux et que nous allons payer, il le dit, pendant des années et des années. Donc, ce qui est frappant, c'est le choc entre ces deux discours et ces deux visions du monde qui, je trouve, au-delà même du conflit ukrainien, est assez inquiétant, en réalité, sur l'état de choc civilisationnel entre cette Russie-là et notre monde aujourd'hui. C'est assez effrayant.
Moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'il exprime de manière absolument brutale et il tire une certaine satisfaction, en fait, de sa brutalité, puisqu'il y a un effet de choc. C'est-à-dire, face à aussi un discours feutré, qui est celui auquel on est, en principe, habitué dans le monde de la diplomatie, du commentaire politique, il y a un discours beaucoup plus violent qui tout de suite suscite dans l'imaginaire l'idée d'une menace, premièrement. La menace, c'est quand même fait pour diviser. Il y a ceux qui, face à une menace, se raidissent et il y a ceux qui sont déjà prêts à céder en se disant peut-être que je devrais faire un calcul d'intérêt. Et puis, il y a aussi une conviction, effectivement, le choc des intérêts étatiques et de la compétition. Or, je pense que c'est l'état presque de nature, en fait, de la vie mondiale. Là, on nous le révèle comme si nous étions des candides qui ne savions pas que les États sont en compétition permanente les uns avec les autres.
Ils le sont. Européens, je vais vous mettre à genoux et vous allez payer pendant des années. Il y a quand même une espèce de vision du monde qui est extrêmement...
Bien sûr, on est dans le frontal, mais il y a vraiment trois axes stratégiques pour la Russie. Il y a l'axe sur contre l'armée ukrainienne. Bon, ça c'est très très classique, c'est les forces sur le terrain qui s'affrontent, les batailles, les combats. Il y a l'axe contre la population ukrainienne. Et il y a l'axe
contre les alliés.
Contre nous. Où il s'agit de faire cesser notre aide à l'Ukraine. C'est ça le but. De différentes façons, par la pression, par la menace, tout simplement, à ce détail près que là où c'est contre-productif, c'est que ça va contre le discours qui s'était infusé disant que c'était nos sanctions, c'est nous.
Absolument.
Que c'est nous qui étions la cause de nos malheurs, d'une certaine façon, en punissant la Russie. Alors que là, on est directement sur la menace. Vous allez payer pour...
on va vous faire payer.
Mais il y a surtout dans ce discours, parce qu'à la fois, il se confronte à la réalité. D'un point de vue militaire, il voit bien que la suprématie de la Russie, elle n'est pas là. Il le sait. En revanche, ce qu'on sent quand il parle des poubelles de l'histoire, c'est le mépris pour la civilisation. Là, ça revient sur le troisième axe. Et on l'a vu aujourd'hui avec cette loi qui est passée anti-LGBT par le Parlement, par la Douma en Russie. Il y a aussi, et on le voit régulièrement dans les discours de Vladimir Poutine, quand ça n'a pas forcément directement lié avec la guerre en Ukraine, c'est un combat de civilisation. Et là, ils sont persuadés de la supériorité de la civilisation russe. Cet Occident amoral.
Oui, non, mais ça rappelle évidemment la guerre froide, ça rappelle le modèle, la présentation d'un modèle soviétique, un modèle communiste qui s'opposait au nôtre. La différence, c'est que maintenant, c'est le modèle qui est complètement inversé d'ailleurs. C'est devenu un modèle complètement réactionnaire en réalité, qui éventuellement ne va pas séduire la gauche ou la française, mais au contraire, va séduire les conservateurs et les purs conservateurs réactionnaires sur une Russie d'ailleurs complètement fantasmée, de l'idée d'une Russie d'ordre et de sécurité.
Qu'on a pas l'occasion de... Comment... Non, j'allais dire qu'on allait terminer. Comment arrêter cette guerre? Très simple.
La victoire.
Les Ukrainiens doivent se coucher devant Moscou. Ouais. C'est simple, c'est ce que dit le porte-parole du Kremlin.
C'est sûr que c'est simple.
Les dirigeants ukrainiens ont toutes les cartes en main pour ramener la situation à la normale. Agir afin de répondre aux exigences de la partie russe. Et mettre fin aux souffrances de la population civile.
C'est ce que je vais répéter ce que vous venez de dire pendant le temps. Soumettez-vous. C'est la seule option que donnent les Russes ce soir aux Ukrainiens. De toute façon, vous allez devoir vous soumettre.
Et nous aussi, en fait. Nous devrions aussi nous soumettre si nous avions bien compris un calcul d'intérêt. C'est-à-dire, nous devrions nous ranger du côté du plus fort. Et effectivement, comme le disait... tout à l'heure, Pauline, tout simplement, on est face à un axe illibéral qui a développé son pouvoir d'attraction, son charme, sur l'exaltation de la force individuelle et collective, la capacité au sacrifice, le recours à la force, le mépris pour les règles, une espèce de force qui est sa justification en soi, son centre en soi. Et on voit un rapprochement avec l'Iran, qui est aussi un pays qui a été banni de la communauté internationale par un autre acteur que nous connaissons, qui sont les États-Unis. Un rapprochement avec l'Iran, une tentative de jouer la carte de la Chine, une Chine plutôt réticente malgré tout à valider le projet russe, mais un Iran qui a validé au niveau spirituel en plus l'agression de la Russie. Donc un axe illibéral concurrent d'une vision du monde beaucoup plus libérale, beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire décentrée.
Et qui tente de se rapprocher aussi de courants ultra-réactionnaires, conservateurs chez nous aussi. On l'a vu aussi dans certains discours. Ouais. Parfois, c'est tout l'Occident qui est jeté à la poubelle. Mais parfois, aux États-Unis notamment, il y a effectivement d'ailleurs des gens qui sont très séduits par le discours de Vladimir Poutine. On a vu également en France, en Europe, des courants séduits par ce discours-là. Évidemment, pas par rapport à la guerre en Ukraine, mais par ce discours ultra-réactionnaire et d'extrême droite aussi.
Bien sûr.
Donc effectivement, il y a un combat sur plusieurs axes.
Et ce qui est très important, c'est que ces axes réactionnaires qui sont activés, qu'on voit aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, en fait, ils ont été préparés de très longue date. Ils n'ont pas été préparés hier, ni même l'année dernière. Ça fait au moins 7 ans, 8 ans que tous ces réseaux ont été construits, ont été financés avec de l'argent volé aux contribuables russes, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment d'État social en Russie. Et cet argent, il a été utilisé à préparer des armes de déstabilisation de ceux qu'on considérait alors comme des alliés. Et moi, je pense qu'il faut aussi rappeler que Vladimir Poutine, pendant des années, a regardé les leaders occidentaux, leur a menti les yeux dans les yeux en leur disant « Non, nous n'avons pas à déstabiliser tenter de déstabiliser les États-Unis. Non, nous n'avons pas parti lié avec Wagner pour nous confronter quelques mois plus tard à des aveux.
On reviendra tout à l'heure à cette guerre en Ukraine, à cette information ce soir. Donc, Kherson bombardé. Il y a au moins 4 morts ce soir à Kherson. Mais avant ça, dans un instant, l'autre information de la soirée. La justice s'intéresse aux campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Quel rôle pour les cabinets de conseil comme McKinsey? Leur travail a-t-il été correctement intégré dans les comptes de campagne? C'est toute la question. On verra comment l'Élysée réagit ce soir. À tout de suite.